Frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche encore, le Seigneur prend à part ses apôtres pour leur annoncer les tourments de la Passion, le scandale de la croix et, avec ce scandale, celui de sa mort, mais 3 jours après, celui de sa résurrection. Déjà, dimanche dernier, lorsque le Seigneur annonçait que le Fils de l'homme allait devoir beaucoup souffrir, être mis à mort puis ressuscité, saint Pierre l'avait pris à part pour lui faire de vifs reproches. Saint Pierre refusait que le Messie envoyé par Dieu soit ainsi humilié, maltraité et mis à mort. Mais le Seigneur lui a déclaré « Arrière, loin de moi, Satan !» Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et si, en cet évangile, les apôtres n'osent pas interroger le Seigneur, c'est qu'ils ne veulent pas, eux aussi, être traités de Satan, alors qu'ils ont pu voir à quel point le Maître accomplissait les exorcismes. Si le Seigneur insiste tant sur le mystère de sa passion à venir, c'est bien sûr pour préparer les apôtres et susciter en eux leur foi, tout comme leur espérance. Le Seigneur insiste une nouvelle fois, car il comprend bien, et chez les apôtres et parmi le peuple qui l'entoure, qu'il est bien plus facile d'attendre le Messie en ce qu'il va rendre la vue aux aveugles, l'audition aux sourds, la mobilité aux paralysés, ou encore le Messie qui va donner la nourriture à son peuple. Mais que le Messie humilié, tel qu'il était entrevu par le prophète Isaïe, eh bien cela était laissé de côté. Comment Dieu pourrait-il envoyer le Sauveur et ce Sauveur être ainsi humilié et mourir? Non, cela n'est pas possible. Mais souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre. Ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà que le bon Dieu veut venir ici-bas pour offrir toute sa vie sur le bois de la croix et que cette croix est un objet de scandale et le reste aujourd'hui. Si le Seigneur insiste tant pour préparer ses apôtres, c'est aussi la première communauté chrétienne et nous avec eux qui l'entend bien préparer. Pourquoi la première communauté chrétienne? Eh bien, il nous faut ici approfondir le mystère et du calvaire et de la sainte tombe dans lequel le Seigneur reposa. Si le Seigneur offre sa vie aux environs de l'an 33, en dehors des murs de Jérusalem, sur ce mont Calvaire qui est entouré de cette ancienne carrière dans laquelle les grottes ont été aménagées avec de beaux jardins comme des tombes précieuses, voilà que le Seigneur mort aux portes de Jérusalem va être déposé dans un de ces tombeaux qui sera offert par Joseph d'Arimathie. Et 3 jours après, voilà le Seigneur au milieu de ce jardin, ressuscité d'entre les morts. La première communauté chrétienne vit de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais pour les familiers de l'Évangile, vous savez que le Seigneur, en montant à Jérusalem, a pleuré en voyant Jérusalem et a annoncé la destruction et du temple de Jérusalem et de tout Jérusalem. En raison de la première guerre judéo-romaine, en l'an 70, il y avait les résistants, les partisans de Barabbas, ceux de Judas Iscariote, les Zélotes. Ce mouvement de résistance s'était attaqué à l'envahisseur romain. Celui-ci, victorieux, fit raser en l'an 70 le temple de Jérusalem et détruit une bonne partie de la ville. La résistance continue à s'opposer à l'opposition romaine. Et que va-t-il se passer 70 ans après, en l'an 130, voilà la deuxième guerre romano-juive. Et là, cette fois-ci, l'Empire romain, toujours victorieux, fait raser complètement la ville de Jérusalem. Ce n'est que 5 ans après que l'empereur Adrien, se rendant en Égypte, vient sur les ruines de Jérusalem et ordonne la construction d'une nouvelle ville, une nouvelle ville romaine, Aelia Capitolina, non plus Jérusalem. et sur les lieux mêmes et du calvaire et du tombeau, au milieu de cette grande carrière, on enterre tout et on fait bâtir au-dessus un grand forum romain. Mais parce que la communauté chrétienne a déjà l'habitude d'aller en pèlerinage et au calvaire et au tombeau, voilà que l'empereur décide qu'en ces endroits, vénérés par ces chrétiens, seront bâtis et un temple de Vénus et un temple de Jupiter. Le scandale de la croix, la défaite aux yeux du monde, est totale pour la première communauté chrétienne. Le temple où résidait Dieu est détruit. La ville de Jérusalem, qui représente la Jérusalem du ciel, complètement rasée jusqu'au roc. Et voilà même que les idoles païennes semblent triompher et sur le mont Calvaire et sur le Saint-Sépulcre. Cette semaine, nous avons fêté la croix glorieuse du Seigneur. Cette croix glorieuse a été redécouverte lorsque l'empereur Constantin, se convertissant personnellement à la foi, l'Empire sera chrétien quelques années après, il envoie sa sainte mère, Hélène, à Jérusalem en 326 pour qu'elle y accomplisse le pèlerinage, car les chrétiens ont toujours continué à approcher les abords du temple de Vénus et les abords du temple de Jupiter pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et c'est sainte Hélène qui, faisant faire les fouilles avec l'évêque du lieu, saint Macaire, eh bien, va retrouver et le calvaire et la sainte tombe dans laquelle le Seigneur reposa durant 3 jours. Et dans une de ces citernes, dans une de ces grottes, on retrouve les fameuses crux commissa, les croix des condamnés à mort. Comment savoir laquelle des trois est celle de notre Seigneur Jésus le Christ? Eh bien, ils ont agi comme pour reconnaître qui est le Messie, ont fait venir les malades, et au contact de l'une d'entre elles, voilà que les aveugles retrouvent la vue, les sourds l'audition, les paralysés la mobilité. C'est la croix du Seigneur, cette croix glorieuse, dont nous avons fait mémoire de la redécouverte après ces siècles de silence complet au-dessus du calvaire, au-dessus de la sainte tombe, où le monde semblait pourtant tout vaincre. Lorsque le Seigneur nous annonce la croix, c'est donc pour préparer les apôtres. C'est pour également soutenir la première communauté chrétienne qui aura à affronter cette fin du monde. Mais c'est aussi pour que nous, en ces temps qui sont les derniers, alors que nous sentons la fin de civilisation chrétienne à laquelle nous assistons, il n'y a plus Dieu à la première place, il n'y a donc plus vraiment de bien, il n'y a plus vraiment de mal, il n'y a plus vraiment d'homme, il n'y a plus vraiment de femme, tout s'est donc effondré. Nous devons ne jamais céder à la désespérance. La croix demeure un scandale. Elle a pu ainsi être gommée. On a pu y édifier des temples païens, mais la croix est toujours glorieuse. Elle fait vivre le chrétien. Et au lendemain de la fête de la croix glorieuse, voilà qu'avec un même élan de foi, nous nous sommes tournés vers Notre-Dame des douleurs, vers la bienheureuse Vierge Marie qui est debout au pied de la croix, non pas abattue comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Elle était debout, la mère des douleurs, altière et belle. Elle avait en son âme toute la foi, elle avait une espérance parfaitement orientée, elle vivait déjà le grand mystère de cette charité dans l'abandon de Dieu qui se meurt par amour pour nous, pécheurs. Elle était là, enracinée, et c'est à elle que nous confions toutes les épreuves que nous avons à traverser en nous-mêmes pour notre conversion, dans chacun des membres de nos familles, dans tous les membres souffrants du corps du Christ que sont nos malades. Mais également, nous lui confions tous les fidèles défunts pour que, plongés aussi dans l'obscurité du tombeau avec le Christ, ils puissent au plus vite en âme paraître en paradis dans l'attente de la résurrection finale. Oui, la croix du Seigneur dont nous avons été marqués au jour de notre baptême nous fait vivre, mais cette croix, ne l'oublions jamais, est un scandale. Et ce scandale n'a rien à voir avec la pensée des hommes, avec le monde des ténèbres, mais voilà que la croix de Dieu est le moyen privilégié qu'a choisi le bon Dieu pour chacun nous sauver. Ne désespérons pas. Soyons comme ces premières communautés chrétiennes pour qui tout avait été détruit, pour qui le monde semblait avoir gagné, mais qui ont poursuivi leur espérance et qui se sont efforcés de vivre de charité. Ainsi soit-il.